Une émission au cœur du développement durable. Impact, c'est tous les mercredis sur Alger 3.
h 07 minutes et 10 secondes pour la petite précision. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Pour ce mercredi, 15 avril, on va s'intéresser à l'énergie. L'énergie sous toutes ses dimensions. Le monde, la planète Terre, qu'on est aujourd'hui, des conflits liés en sous-bassement aux questions énergétiques. On va pas parler du détroit d'Ormuz parce qu'il est toujours bloqué. On va parler par contre de l'importance des hydrocarbures, mais aussi du futur, c'est-à-dire ce qui doit être l'après-pétrole, l'après-gaz, les futures solutions énergétiques. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en direct de nos studios Monsieur Rabih Salami. Bonjour.
Bonjour Monsieur Bixam.
Alors, un habitué d'être avec vous. Oui, de manière répétée, j'allais dire. Alors, je rappelle que vous êtes directeur de l'hydrogène et des énergies alternatives au CRF. Le CRF, qui est le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, il est placé sous la tutelle des services du Premier ministre. Et à ma gauche, un autre habitué de nos studios, Monsieur Mehdi Khalfi. Bonjour.
Bonjour.
Merci. Alors vous faites des études, vous avez un bureau d'études qu'on va appeler Solutions énergétiques. Alors, Monsieur Rabih Salami, directeur de l'hydrogène et des énergies alternatives, vous suivez, vous scrutez l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on nous a vendu depuis quasiment un demi-siècle? C'est la fin du pétrole, c'est la fin des hydrocarbures, il y a une taxe carbone, c'est pas bon pour la planète, c'est mauvais, ce sont les indicateurs des changements climatiques, c'est la fin du nucléaire, c'est la fin du charbon, il y a de l'éolien, il y a du solaire, on hésite entre le solaire thermique et le solaire photovoltaïque, et puis, au détour d'un conflit, on se rend compte que on est toujours que la planète tourne au rythme des hydrocarbures, du pétrole et du gaz. Que les conflits ont pour source, et c'est le cas de le dire, les gisements de pétrole et de gaz, et que tout ce qui est renouvelable, sans jeu de mots, c'est du vent.
Je peux dire que vous avez raison, c'est que cette transition énergétique, en réalité, elle n'est pas là pour substituer les énergies fossiles et s'en débarrasser de leur utilisation, mais bien au contraire, la transition énergétique appelle à introduire ou intégrer des solutions, amies de l'environnement, mais d'une manière graduelle. Il faut savoir que tous les scénarios qui ont été élaborés dans le cadre de cette transition énergétique affichent la présence des hydrocarbures dans des scénarios à long terme. Donc à l'horizon 2050, on va toujours retrouver le gaz naturel, on va retrouver le pétrole, et une petite partie du charbon. Mais le but, c'est d'augmenter la part des énergies renouvelables et la part des solutions technologiques qui vont permettre de réduire l'impact de l'utilisation de l'énergie sur l'environnement. Et donc cette transition énergétique va se baser sur un certain nombre de solutions technologiques. La première solution, c'est l'efficacité énergétique qui va jouer un rôle important dans la réduction de l'utilisation des énergies fossiles et par conséquent la réduction de l'impact carbone du système énergétique en général. Et donc la part de l'efficacité énergétique pour réduire cet impact, elle est autour de 30%.
Quand même.
Le reste va se faire à travers le déploiement des énergies renouvelables et des énergies alternatives. Donc tout ce qui est biogaz, valorisation énergétique des déchets et autres solutions alternatives. En plus de ça, il faut aussi utiliser d'autres technologies comme les technologies de stockage, de captage, utilisation et stockage du carbone, sous toutes ses formes. Il y a aussi un besoin parce que on peut pas faire cette transition énergétique sans avoir le stockage de l'énergie. Et donc on va faire appel à l'hydrogène qui va jouer un rôle important dans la satisfaction de cette demande de stockage de l'énergie et aussi régler certains problèmes liés à l'utilisation des énergies renouvelables qui sont, comme tout le monde le sait, en général des sources d'énergie intermittentes et variables dans le temps.
Intermittentes, donc il y a du soleil le jour, il n'y a pas de soleil la nuit, donc cette intermittence fait que il faut procéder autrement via un mix énergétique où il y a plusieurs solutions. Solutions énergétiques, c'est le domaine de Mehdi Kherfi qui en a fait son bureau d'études. Alors, dans cette transition, quel module doit-on prendre? Si transition énergétique il y a en Algérie, il y a deux définitions, c'est migrer directement vers des énergies fossiles vers les énergies renouvelables ou alors la transition énergétique en Algérie, c'est beaucoup plus essayer d'aller d'un modèle basé sur le gaspillage vers un modèle énergétique basé sur la sobriété et l'efficacité énergétique où les énergies renouvelables sont une partie dans ce mix, donc dans ce débat. Votre avis?
Merci. En fait, on est confronté à une réalité que vous venez de décrire tout à l'heure, elle est triste, elle n'est pas ce qu'on veut à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, bien sûr, à l'échelle planétaire. Et l'Algérie, donc, elle s'inscrit dans le contexte international. Donc,
elle n'a pas le choix.
Globalement, elle fait face. Si on démarre du fait que l'Algérie fait face à deux consommations, il y a la consommation internationale, il y a la consommation nationale. Et il y a deux volumes à partir d'un seul volume d'hydrocarbures. Donc il y a une réserve et à un certain moment donné, la consommation fait appel à une quantité énorme. Donc il y a l'exigence extérieure à satisfaire, la consommation extérieure. Donc nous sommes dans une opportunité où l'Algérie a été donc une source pour l'Europe, etc. Donc c'est une opportunité pour nous. Maintenant, peut-on saisir cette opportunité? Va-t-elle continuer? Jusqu'à combien et à quand par rapport à l'épuisement, etc., etc. Nous assistons à un marché interne qui a aussi qui augmente dans sa consommation. Il est à 5% de croissance annuellement face à la croissance mondiale d'après l'Agence internationale de l'énergie à 2,5-2,4.
C'est-à-dire le double de ce qui se fait par le monde.
Absolument.
Dans le monde.
Donc l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est entre les deux volumes. Est-ce qu'on peut réduire le volume interne pour pouvoir justement bénéficier du marché extérieur, parce qu'il y a, à l'extérieur, il y a un marché. Ce qu'on appelle un marché, ce que j'appelle moi un marché actif. Il est productif. Il nous fait rentrer de la devise. Et il y a un marché interne, il est passif. On ne fait que dépenser. On ne fait que subventionner. Donc, sans le marché externe, on ne peut pas satisfaire cette demande interne. Ah. Et le paradoxe et l'enjeu, la vigilance est là. Jusqu'à quand on peut supporter un marché intérieur uniquement au détriment du marché extérieur, et que nous sommes dans un carrefour, nous avons besoin d'une transition énergétique, donc d'un mix énergétique, nous avons besoin d'une diversification économique qui fait appel donc à cette devise, à beaucoup de dépenses pour l'investissement. Donc on est dans une situation, à mon humble avis, il est temps. Est-ce qu'on ait une vigilance, une veille? Il vaut mieux se projeter à temps que de subir les événements, que ce soit interne ou externe. Et à partir de là, donc il y a là où on peut faire anticipation. Pourquoi ne pas en faire? Et puis la transition, ce n'est pas uniquement, elle ne doit pas s'appuyer uniquement sur l'État. La transition énergétique est l'affaire de tous. Elle a affaire de tous les secteurs. Ce n'est pas uniquement l'affaire du secteur du ministère de l'énergie et des mines, ou bien c'est tous les secteurs. Si on prend le secteur de l'habitat, par exemple.
On va s'y intéresser, justement, le secteur de l'habitat.
Prend le secteur habitat, le secteur agricole, juste un État coopératif, ouais. Et un État industriel. Nous avons une consommation à satisfaire, qui est l'habitat. Elle est passive. Elle ne fait que consommer, elle ne produit rien. Il y a un secteur productif, agricole, qui est en expansion.
Qui fait nourrir tout un pays.
Et c'est un exemple à suivre.
Oui.
Hier, rappelez-vous, il y a quelques années, avoir des milliers d'hectares en tant que privé, ce n'était pas possible.
Aujourd'hui, mais c'est le cas.
Il n'y a aucune menace, ni sur l'économie, ni sur la sécurité. Bien au contraire. Donc, on a fait un pas de géant où on a gagné la sécurité alimentaire, que ce secteur, en ce moment, a besoin aussi de l'énergie, parce qu'il produit et il veut encore produire davantage. Donc, il y a des investissements davantage. On prend un autre secteur, qui est secteur industriel, qu'on veut toujours développer, et il est là à nous attendre pour se développer. Il a besoin aussi de cette énergie. Maintenant, le choix n'est pas à faire. Tous les secteurs qui ne sont pas identiques ont besoin de cette énergie. Donc c'est à nous d'aller vers la diversification dont vous parlez tout à l'heure, le mix énergétique. Donc le mix, ce n'est plus un choix. Quelle que soit la solution, la moins coûteuse, la plus vite à faire, est à adopter. Ensuite, le réajustement, ceci n'a pas tellement réussi, etc., ça s'améliore dans le futur. Mais à cet état, nous sentons que même les pouvoirs publics, ils sont inquiets de ce volume interne qui est en train de devenir...
D'augmenter de façon exponentielle.
Notamment l'habitat qui est devenu énergivore, et plus que ça. Donc, à côté de son aspect énergivore qui est à 45%, de consommation d'énergie finale, et c'était un secteur budgétivore aussi.
On va s'arrêter justement, vous avez cité trois sous-titres, j'allais dire, trois points forts, vigilance, anticipation, transition, et dans ce mix énergétique, il va falloir faire des arbitrages. Qui doit consommer le plus entre le résidentiel avec l'habitat? Le résidentiel est à quelque chose comme 48%, c'est pratiquement la moitié de l'énergie primaire, l'agriculture et l'industrie. Lorsqu'on prend les intrants du secteur résidentiel, 48%, les intrants c'est quoi? C'est le ciment qui est très énergivore, c'est du gaz transformé, c'est le rond à béton, c'est aussi du gaz transformé dans le secteur. Le rond à béton a besoin énormément d'énergie, donc d'électricité, mais surtout de gaz. Il a besoin aussi d'eau, et l'eau en Algérie est fortement dessalée. À Alger, nous buvons à 74% de l'eau dessalée, qui est parfois destinée aussi à l'industrie, et on ne peut pas avoir des secteurs énergivores dans les intrants de l'habitat. L'Algérie étant un État social par excellence, l'Algérie, c'est la mecque du logement. L'Algérie construit des logements par millions. On est tous fiers de ce boom en matière d'habitat, sauf que ce n'est pas vraiment maîtrisé. Aujourd'hui, la donne mondiale nous incite à essayer d'avoir un arbitrage au juste, M. Slami.
Effectivement.
Pas toujours évident, mais il faut y aller.
Effectivement, la consommation interne en énergie a enregistré une croissance très très élevé, notamment ces dernières années. Et d'ailleurs, le taux de croissance de consommation par secteur révèle qu'il y a un réel problème sur lequel il faut commencer à travailler à travers des analyses, des études pour arriver à identifier quelles sont les meilleures solutions à adopter.
On peut donner quelques chiffres, Monsieur Slami,
oui,
sur les secteurs.
Oui. D'ailleurs, si on regarde le bilan énergétique national de l'année 2024, on va vite constater que le secteur des ménages et le résidentiel est à la part du lion dans cette consommation.
C'est le numéro un
de consommation d'énergie. Il faut souligner que dans ce secteur, il n'y a pas que la consommation d'électricité, il y a la consommation du gaz naturel qui représente gaz naturel et GPL, qui représente environ 70% de cette consommation.
Le GPL, on rappelle, c'est le butane et le propane qui permettent de faire fonctionner les cuisinières
et le chauffage. Aussi, le gaz naturel, la même chose.
De vous interrompre, Monsieur Slami, les ménages et le résidentiel dans le bilan énergétique de l'année 2024, c'est quoi ton pourcentage? On est dans le 45, 48%, 50%?
On est autour de 45%.
47?
45%.
45%. Est-ce que dans ce bilan énergétique...
Énergie finale.
Oui, oui. On a mis en équation la consommation d'eau qui est fortement dessalée, et l'eau dessalée est plus que très fortement énergivore. Donc les ménages consomment de l'énergie primaire sous forme le bâtiment, et puis le chauffage, et puis l'électricité, oui, ensuite l'eau.
Oui. Et au robinet.
qui est, c'est une forme d'énergie. Donc je pense, si on devait mettre en équation le dessalement dans la consommation globale d'énergie primaire, ça va aller à un peu plus de 60%.
Certainement. Oui. Mais aujourd'hui, il faut déjà commencer à faire ce type d'analyse pour en tirer les conclusions nécessaires.
Et les choix.
Bien évidemment. Et donc, je disais que 70% de la consommation des ménages et du résidentiel, c'est le gaz naturel. Et il faut savoir que chaque année, on enregistre un pic de consommation de l'électricité pendant les mois d'été. Il faut souligner aussi qu'on enregistre chaque année des pics de consommation du gaz naturel pendant les périodes où le chauffage est nécessaire. Et donc, aujourd'hui, on peut commencer à réfléchir sur cette situation et regarder quelles sont les solutions déjà à commencer à introduire dans le bâtiment pour réduire la consommation. Parce qu'on a, pendant l'hiver, le besoin de chauffer, mais on a le besoin de refroidir pendant les périodes chaudes. Et donc, il est clair que la question liée à l'isolation thermique des parois est peut-être la première question sur laquelle il faut commencer à se pencher. Exactement.
C'est que ça reste quand même énorme. En Algérie, État social par excellence, il y a le boom du logement, on construit par millions de logements, mais on construit très mal. Les constructions sont des passoires énergétiques. Il faut chauffer un max en hiver et on chauffe toi. Avec quel produit en Algérie? Avec du gaz. Et en été, c'est la clim à fond. On climatise avec quoi? Avec l'électricité qui, elle, est produite à partir du gaz naturel Comment arriver à... On va se projeter, on va commencer à réfléchir, mais il faut qu'on réfléchisse vite et bien avant qu'il n'y ait plus de gaz, parce que les millions de logements, on va pas en construire pendant des années. Mais ce sont des choix, j'allais dire stratégiques, que l'État doit prendre, Monsieur Mehdi Kharfi.
Moi, je pense c'est le moment de l'action.
C'est le moment de l'action.
Le moment de l'action, pour la simple raison, on a passé assez d'années à faire le choix, à réfléchir, quelles sont les alternatives, les perspectives, les solutions, que ce soit au bâtiment, que ce soit ailleurs. Mais à l'amont, on doit se dire que cette transition énergétique doit être pour nous une opportunité pour diversifier notre économie, pour diversifier notre système énergétique.
On la prend comme étant une chance.
Absolument. Maintenant, la transition énergétique se repose exclusivement sur l'État. Peut-on décharger un peu l'État d'une manière à soulager les finances publiques de telle manière à décentraliser, à introduire ce qu'on appelle le privé qui soit étatique ou privé au sens réel du terme, hein. Donc que les secteurs s'auto créent leur propre autoconsommation.
Est-ce qu'on peut donner des exemples? Les secteurs peuvent ou doivent créer leur autoconsommation. On rappelle juste qu'en Algérie, les lois sont plutôt bien faites. Rappelez-moi juste, Monsieur Selami, Monsieur Mehdi Kharfi, à quand remonte la première loi sur la maîtrise de l'énergie en Algérie?
1999.
Cela fait 27 ans. Fait 27 ans que l'Algérie s'est dotée d'une loi sur la maîtrise de l'énergie.
Oui.
Et durant 27 ans, on n'a pas pu freiner.
C'est pour ça que je vous dis.
On n'a pas pu freiner l'explosion d'énergie dans le secteur de l'habitat.
Oui, mais il faut rappeler que cette loi de maîtrise de l'énergie a inscrit quand même un certain nombre d'actions et de mesures.
D'accord.
Et accompagnées par des programmes qui ont été lancés au fil des années dans plusieurs secteurs. Les secteurs les plus énergivores, comme je le disais, les ménages et le résidentiel, il y a un certain nombre d'actions, comme l'isolation des immeubles, comme l'introduction des doubles vitrages, l'introduction des équipements électroménagers à basse consommation. Et je peux donner l'exemple des lampes basse consommation qui ont quand même été développées les LED aujourd'hui qui ont été développées d'une manière très très importante. Et d'ailleurs, il y a eu même l'implication des industriels dans
les LED
dans
aujourd'hui
cette action.
Sont fabriqués en Algérie.
Exactement.
Mais on a l'impression que ce n'est pas assez. C'est pas fort. Les indicateurs, le tableau de bord reste toujours. Vous nous l'avez cité tout à l'heure, les deux, Monsieur Mehdi Kharfi et Monsieur Selami, 47% dans le secteur résidentiel qui n'est pas productif. Oui. Alors que quelles pourraient être les solutions dans le secteur des TPE, des très petites entreprises, des comités peut-être de villages pour essayer d'atténuer cette forte consommation?
Ça peut se faire.
Doit se faire.
Et puis ça rentre dans le programme de l'État par rapport à l'efficience et à l'économie. Donc il y a la maîtrise de la consommation. Comment maîtriser cette consommation? Jusqu'à quel point on peut la maîtriser? Et à côté, il y a l'optimisation des ressources.
L'optimisation des ressources.
Donc nous avons une seule ressource pour qu'il n'y ait pas épuisement, pour qu'il y ait beaucoup plus de aller vers le marché extérieur dont on a besoin, parce que
sans parler du gaz, j'imagine. Bien sûr.
Oui, tout. Oui. Demain, pourquoi pas, ça va être de l'hydrogène si on anticipe, et ça fait partie de la diversification, ça fait partie de la transition énergétique, etc. Donc le solaire. Ce n'est pas raté encore. On peut se rattraper très vite.
Il y a deux centrales qui vont être mises en exploitation ces jours-ci.
Et chaque centrale de construire, c'est du gaz gagné. C'est des mètres cubes, c'est des millions de mètres cubes gagnés. C'est le trésor public. C'est la santé financière qui est en train de.
Mais en termes de modèle, chaque mètre cube de gaz gagné. Il est gagné sur la consommation interne, mais pour pouvoir exporter, avoir des devises. Mais si c'est pour avoir des devises, mais construire des passoires énergétiques, en tournant rond.
Justement, on revient à cette politique où c'est un peu, c'est les finances publiques qui prennent tout. Maintenant, il faut, c'est une affaire de tout le monde. J'ai parlé tout à l'heure de secteur, ce n'est pas uniquement un seul ministère. Et maintenant aussi, c'est l'affaire d'une société. Donc c'est toute la société qui doit se mettre pour cette transition énergétique. Donc impliquer réellement le privé pour moins consommer et pour produire, pourquoi pas. Donc soit faire de la production en partenariat jusqu'au jour où on aura une production totalement du privé. Et là, ça va être comme le modèle agricole, c'est des concessions, c'est l'État régule, l'État contrôle, etc. Donc à un certain moment donné, la Sonelgaz peut bénéficier du privé algérien. Si on ne fait pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on laisse ce marché passif ne jamais devenir productif.
Comment passer du marché passif au marché actif? Est-ce que vous, en tant que bureau d'études, vous pouvez être saisi par une structure comme le CEREF, qui est le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, pour dire, pour, j'allais dire, retoquer, nous avons une grande agence en Algérie, c'est l'agence pour l'amélioration et le développement du logement. Cette agence construit malheureusement, et tout le monde le sait, des passoires énergétiques. Est-ce que vous pouvez retoquer ce modèle énergétique du bâti et produire un modèle basse consommation qui ferait gagner des devises à l'Algérie en diminuant la facture énergétique du bâti? Est-ce que c'est possible techniquement, monsieur Mendir?
Bien sûr. Alors, très
concrètement.
Très concrètement. Ma petite expérience sur le terrain, je vais m'arrêter à ma petite expérience sur
Allez-y.
Le terrain, parce qu'on est à la chaîne 3, donc on s'adresse à tout le monde, oui. Pas uniquement aux spécialistes ou bien aux...
Non, on est une chaîne généraliste.
Absolument. Donc, quand est-ce qu'on vient vers moi? Généralement, c'est quand il y a une contrainte. Soit c'est l'isolement, oui. Soit il y a une contrainte vraiment technique.
Où les gens sont au réseau, ou il y a autre chose.
C'est ça l'isolement. Oui. Donc, soit c'est l'isolement, soit il y a une autre contrainte technique. Moi, je ne dirais pas qu'il faut aller vers la création de contraintes. Non, loin de là. Mais par contre, il faut partager, faire participer. Quand on fait l'appel d'offres, on dit, voilà, appel d'offres pour la production de l'électricité entre deux secteurs, entre deux entreprises, dont le secteur agricole. Moi, j'en ai fait. Des installations électriques collectives.
Des installations électriques collectives?
Absolument, solaires, collectives. Au lieu que ça soit des milliers de kilomètres par Sonelgaz.
De câbles?
Absolument.
Qui coûtent cher.
Les investisseurs eux-mêmes, au lieu chacun avec son groupe électrogène, avec ceci, avec cela, c'est toujours de l'énergie fossile, pourquoi ne pas installer une petite centrale, une mini-centrale, une centrale moyenne qui va couvrir leurs besoins, et que ce soit individuellement ou collectivement. Donc les solutions réelles, pratiques, existent.
C'est une coopérative solaire.
Absolument.
Il y a des coopératives pour les tracteurs, les moissonneuses batteuses, il y a des coopératives pour l'énergie solaire.
C'est l'autoconsommation. Ouais. Maintenant, si elles sont toutes prêtes du réseau, tant mieux s'il y aura injection sur réseau. Sinon, au moins, l'autoconsommation, c'est une déduction. Est subvention, de tout ce qui est financement public envers ces gens-là.
Vous et faites bien plus, de le dire.
Et d'autant plus, c'est des oui. producteurs.
Alors, justement, quand vous avez ce modèle-là, des agriculteurs qui sont parfois dans le besoin d'avoir de l'énergie H24 pour l'irrigation, pour produire de l'eau, pour faire le pompage, pour le tourisme, ils produisent de l'énergie, ils sont performants, vous les assistez, vous êtes bureau d'études solutions énergétiques, ils ont un surplus d'énergie qu'ils peuvent injecter sur le réseau. À un moment donné, quand il y a eu la loi sur la maîtrise de l'énergie en 1999, ça fait 27 ans, on a découlé aussi un certain nombre de supports juridiques et réglementaires pour les feeding tarifs. Quand un Algérien, privé ou étatique, a un surplus d'énergie, il pouvait le revendre, le mettre sur le réseau
sur
et
le marché,
revendre. On en est où? On a fait une petite marche arrière. Les feeding tarifs ne sont plus au goût du jour, monsieur Slamy.
Je pense que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la vitesse avec laquelle on a mis en œuvre certaines lois et certaines
dispositions
réglementaires n'a pas suivi c'est-à-dire la réalité. Et donc la loi 0102 sur l'électricité et le gaz, donc c'est depuis 2001.
Ça fait 25 ans.
Et aujourd'hui, je pense que le ministère de l'Énergie et des Énergies Renouvelables a été réorganisé de manière à ce que ces problématiques seront prises en charge. D'ailleurs, aujourd'hui, il a été créé une nouvelle direction au niveau de la direction des énergies renouvelables et nouvelles. C'est une direction de, je crois, autoconsommation. Et qui va certainement se pencher sur cette question de développement des énergies renouvelables dans le cadre de l'autoconsommation et l'autoproduction.
C'est-à-dire les deux, autoconsommation, oui. Autoproduction, et le différentiel pourra être
injecté sur le réseau. Et donc, je pense que cette nouvelle réorganisation va donner un nouvel élan à cette transition énergétique par le développement des différentes solutions. Maintenant, par rapport au secteur aussi, il faut bien regarder qu'il n'y a pas que le résidentiel qui est énergivore.
Nous avons le
transport aussi. Hein. Oui. Le transport, c'est un des secteurs névralgiques d'un pays et d'une économie. Et donc, il est classé deuxième en termes de consommation finale de l'énergie. Et là, là aussi, il y a un certain nombre de solutions qu'il faudrait déployer et impliquer le secteur lui-même.
C'est-à-dire dans le secteur du transport, c'est quoi?
Le secteur du transport, si on regarde le bilan de consommation de ce secteur, on va vite constater, par exemple, que le rail consomme très peu d'énergie. Et d'ailleurs, ça démontre que le rail en Algérie n'est pas assez développé. Et pourtant, c'est la filière qui permet au secteur de transport d'être très, très actif. Et d'ailleurs, dans le monde, on assiste aujourd'hui à des parts, disons, d'implication du rail qui avoisine les 15% dans le transport des marchandises et des personnes. Et donc, en termes de consommation de ce secteur, on peut déduire rapidement, si on prend le transport des personnes par exemple, que transporter une personne d'un point A à un point B consomme énormément, parce que les gens sont en train d'utiliser des véhicules individuels et généralement d'une manière individuelle. On constate qu'un véhicule sur la route, généralement, ne prend que le conducteur. Et donc, ça pose problème en termes de consommation par personne, parce que l'analyse, il faut la faire de cette manière. Il faut regarder le déplacement d'une personne, combien ça coûte en énergie, combien ça coûte en émissions carboniques, et la même chose pour les marchandises. Il faut regarder l'attente, combien ça va coûter en termes d'énergie. Si on développe le rail, d'ailleurs, au CRF, nous avons fait une analyse approfondie du secteur en allant vers les six filières. Le rail, si on le développe, oui, on va baisser énormément la facture énergétique d'une tonne de marchandises transportées. De même pour le transport des personnes. Et d'ailleurs, le développement pour le transport des personnes, le développement du métro et du tramway a permis de réduire la facture énergétique du transport des personnes d'une manière très très efficace au niveau de certaines villes.
Sans parler de l'investissement de l'État dans des secteurs stratégiques comme celui des mines, on ne peut pas développer des gisements tels que celui de Garaj Bilet ou d'Amizour, tel Hamza ou Bled El Hedba, s'il n'y a pas un réseau de chemin de fer électrifié, dont on parle de mobilité électrique, que ce soit pour les personnes ou alors pour les marchandises.
Justement, donc il faut déjà développer le transport par rail, chose que les pouvoirs publics sont en train de faire actuellement. Et d'ailleurs, des gigaprojets sont en train d'être lancés. Et dans une deuxième étape, électrifier ce transport par rail. Et ça va donner plus d'efficacité en termes de consommation d'énergie, en termes d'émissions carboniques, parce qu'on doit décarboner aussi.
Mais ça, c'est la volonté des, ce que disait M. Mehdi Khalfi tout à l'heure, des, la volonté de l'État. Mais les autres secteurs, le secteur des transports est aujourd'hui en pleine dynamique, il va de l'avant, il y a une stratégie nationale de mobilité, mais de mobilité électrique, mais lorsqu'on voit le secteur de l'habitat n'a pas bénéficié d'une véritable stratégie en matière d'économie d'énergie, M. Khalfi.
C'est-à-dire, en termes de réalisation, si on fait le bilan de ce qui a été réalisé durant les dernières années, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais le problème, c'est comment ne pas se heurter demain à une crise fatale. C'est quoi ? Tout cet argent qui est en train de partir dans des investissements utiles, mais ils sont moins productifs. Maintenant, si en parallèle, aussi, on fait des projections par rapport à des marchés qui produisent. Par exemple, on a parlé de l'électricité.
Oui.
C'est la part la plus importante qui est énergivore dans le secteur par rapport à.
Donc, et c'est le pays le plus raccordé à l'électricité quasiment au monde.
Il y a deux solutions.
Allez-y.
Il y a deux solutions. Il y a une solution. Les deux, elles sont dans le cadre de l'autoconsommation. La première, c'est une autoconsommation et en même temps injection sur réseau qui se heurte en ce moment à des problèmes techniques par rapport au réseau, à des problèmes très scientifiques, techniques. Comment dois-je faire cette injection, à quel moment, et est-ce que le réseau va supporter ça ou pas, etc., etc. Mais par contre, ensuite, la tarification. Est-ce que c'est encourageant ou pas? Parce qu'un producteur, quand il est, même si c'est à son compte, un secteur bien déterminé, s'il n'est pas gagnant dans l'investissement, dans la production, donc il se heurte à lui-même, il ne va pas s'aventurer parce que le projet n'est pas rentable pour lui.
Mais le feeding tarif a été arrêté, ça fait une quinzaine d'années.
Oui, mais.
Sorti sur le journal officiel.
Mais pourquoi ça n'avance pas?
C'est ce que je dis. C'est l'application qui manque.
Alors.
Ça veut dire que, pardon, on s'arrête, si vous permettez. Les feeding tarifs, c'est quoi? Ce sont les tarifs d'électricité à base de solaire photovoltaïque qui devaient être mis en œuvre, qui sont sortis, publiés sur le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Il y avait tout un tableau. Vous produisez tant de kilowattheures crête, l'État vous les achète à temps.
J'arrive.
Donc et ça, il 15 soit, ans après, c'est toujours pas
soit,
le cas.
Soit le producteur. Soit le consommateur qui est transformé en producteur d'une manière individuelle, autonome. Donc, il y a ce genre de problème. Il y a la production en partenariat avec la Sonel Gaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Sonel Gaz va faire appel, il y a une concession, etc. Donc, on cherche des producteurs qui eux-mêmes investissent de plusieurs manières, donc même sur l'aspect financier, etc., il faut rendre les banques plus accessibles. Donc il y a tout un mécanisme.
Il y a un environnement à mettre en place.
Absolument. Autour de ça, et à partir de là, c'est des méga projets, disons. Donc c'est des centrales importantes, qui vont réellement apporter un plus à la Sonel Gaz. Mais quand à la réalisation et la mise en pratique. Donc, il faut se poser la question. Est-ce que c'est le tarif qui ne va pas? Est-ce que c'est le manque de texte d'application pour rendre clair encore les choses jusqu'à aller, parce que un privé, un entrepreneur, une entreprise par principe, par définition, si elle ne voit pas sa rentabilité, elle ne va pas s'aventurer parce que c'est son propre argent.
C'est Monsieur Selami qui va nous répondre. Est-ce que c'est un problème de réglementation, de tarification? Ou d'autorité. Et on va parler tout à l'heure d'autorité.
Je pense que les choses ont été initiées et aujourd'hui peut-être que...
Il y avait de la bonne volonté, mais on a raté quelques virages.
Je pense pas. Je pense beaucoup plus que l'environnement n'était pas prêt pour appliquer certaines mesures. Mais aujourd'hui, je pense que déjà par le lancement des 3200 mégawatts,
les nouvelles centrales solaires photovoltaïques.
Les nouvelles centrales, c'est un gigaprojet qui va permettre à l'Algérie déjà d'avancer d'une manière plus rapide et créer cet environnement attendu dans les années à venir, parce qu'on a commencé par les 3200 MW à travers le, des projets sous le modèle EPC, mais à
EPC,
l'avenir, je pense,
dire,
financé à 100% par le Trésor public. Et je pense que les années à venir, et il va rester donc plus de 12 000 MW qui seront réalisés.
En solaire photovoltaïque toujours.
Et une partie en
éolien.
Et ça va nécessiter le passage ou bien l'exploration d'autres modes de mise en œuvre de ce programme.
Et entre les deux, qui doit trancher, Monsieur Sellemi, Monsieur Kherfi? Est-ce que vous ne pensez pas que l'Algérie d'aujourd'hui, vu ce qui se passe à travers la planète, n'a pas besoin d'une véritable autorité de régulation de l'énergie? Qui doit faire quoi?
Ça existe
si
déjà.
Oui, c'est pas une autorité de régulation qui a, j'allais dire, entre guillemets, son mot à dire, excusez-moi. L'État, à travers le Trésor public, est en train de réaliser 3200 MW en solaire photovoltaïque. Parallèlement, le ministère de l'Agriculture est en train de raccorder avec des moyens, j'allais dire fossiles, des exploitations agricoles qui, elles, peuvent bénéficier de la technicité d'en parler, Monsieur Kherfi.
Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Moi, je considère que la réussite du secteur agricole est une réussite à prendre en considération comme exemple.
C'est un modèle.
Quand vous voyez des groupes de construction investir dans l'agriculture, ça veut dire quoi?
Vous pensez à Théocidaire et à son attrape.
Ben oui.
Oui.
C'est pas interdit.
Non, du tout.
Voyez,
au contraire, c'est à encourager.
Absolument. Donc, c'est des secteurs publics à qui on a donné la possibilité de produire, d'être productif dans d'autres secteurs.
D'améliorer l'indice de sécurité alimentaire en Algérie.
Pourquoi ne pas faire ça par rapport à l'énergie? Il y a des groupes qui peuvent produire, et il y a des groupes qui veulent investir, et il y a même des privés qui veulent investir. Donc, il me semble que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'autant plus les techniques sont là, toutes les technologies sont là. Hier on avait peur, souvenez-vous.
Peur de quoi?
Il y avait même certains experts qui disaient que le photovoltaïque ne faisait pas partie de l'économie d'échelle, etc., etc. Vous voyez maintenant, le watt crête, il est à 0,6. C'est quelque chose d'extraordinaire.
0,6 quoi?
Euros. Donc, à un certain moment donné, il était à 15 et il devient à 0,.
Il devient, vous me corrigez, il devient aussi performant que le kilowattheure produit avec des turbines à gaz, ou presque.
Pas encore. L'avantage du photovoltaïque, c'est que l'investissement se fait une seule fois. On fait l'investissement, ensuite, il n'y a plus de coût d'exploitation. Mais le gaz, même si c'est pas cher au départ, mais il brûle à longueur de l'année.
D'accord. Et c'est pas cher au départ parce qu'il est fortement subventionné pour un producteur d'électricité comme Sonel Gaz.
Déjà, imaginez la subvention. Déjà, elle est faite à la production. Ensuite, elle s'ajoute à la consommation. Plus les pertes, plus le gaspillage. Donc, c'est pour ça qu'il faut décharger un peu les pouvoirs publics de cette tâche immense, soulager un peu le trésor public de cette hémorragie financière.
Alors soulager, vous répétez, soulager le trésor public de cette hémorragie financière.
Ben oui.
Comment? Si les pouvoirs publics, c'est le trésor public, investit, subventionne, j'allais dire, à trésor perdu,
voilà, la consommation qui augmente,
la production d'électricité fossile à base de turbines à gaz, est-ce que ce même trésor public qui pourra arrêter l'hémorragie financière dont parle Mehdi Kherfi ne peut pas subventionner aussi à trésor perdu, ce qui est renouvelable, Monsieur Sellemi?
Je pense que l'exemple toujours de gigaprojet qui a été lancé ces dernières années est un exemple concret de cette option-là.
On n'arrive pas à la voir, c'est tout, parce que c'est en cours de réalisation.
Oui, c'est en cours de réalisation et ça va venir, je pense, dans les mois et les années à venir. Et d'ailleurs, c'est les ressources fossiles qui sont en train de financer les ressources renouvelables. Mais comme je l'ai dit, on peut pas continuer.
Les ressources fossiles.
Pardon.
Qui sont pas renouvelables.
Oui. Mais on va pas continuer, je suis certain, à opter dans ce schéma. Donc, les prochains projets, je pense qu'ils vont intégrer certainement le mode IPP. Donc, c'est des producteurs indépendants de l'énergie qui vont probablement venir.
Est-ce que c'est pas le moment idéal, idoine, vu ce qui se passe à travers la planète? Il y a une envolée des prix du pétrole et du gaz. Est-ce que ce différentiel, quand le baril de pétrole passe de 65 à 100 dollars, une partie de ce différentiel ne doit pas être mis dans un fonds dédié au développement des énergies renouvelables? Votre avis?
À la base, c'est comme ça que ça se déroule. Mais comme je l'ai dit toujours, l'Algérie est en train de mettre en place tout un écosystème pour déjà accélérer le programme actuel et passer ensuite à d'autres programmes qui vont venir. Il y a l'hydrogène aussi qui va ramener une capacité énorme en énergie renouvelable.
C'est réel, cet hydrogène vert, on en parle. Ça reste quand même à l'état de projet. On est en train de le maturer. Qu'est-ce qui se passe
Partout dans le monde, on est à l'état de lancement de la filière. Il est vrai que certains pays sont plus avancés que d'autres, mais l'Algérie a élaboré sa feuille de route en 2023.
Est-ce qu'on fait de la veille technologique? Est-ce qu'au sein des universités algériennes, on prépare les futurs ingénieurs à gérer?
Bien évidemment, bien évidemment. D'ailleurs, ça a été inscrit dans la stratégie nationale et beaucoup de secteurs se sont impliqués, y compris le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le secteur de la formation professionnelle.
Et peut-être les petites entreprises.
Bien évidemment, les petites entreprises. Et donc, tout le monde est appelé à contribuer simplement parce que la filière est en phase de construction. Et donc, tout le monde peut contribuer pour que...
Ça veut dire que demain, Mehdi Khelfi peut être appelé par l'entreprise de transport de Béchar pour emmener les travailleurs sur le site de Garage Villette, d'avoir à fournir une solution, puisque ces solutions énergétiques, de bus fonctionnant à une pile combustible à base d'hydrogène.
C'est faisable. Écoutez,
Vous êtes associé.
Il suffit de décider. Les exemples ont été faits. J'ai l'impression que nous sommes dans un truc clos et puis
une bulle.
Dès qu'on ouvre une maison pour aérer, on trouve l'autre fermée. Voilà qui se referme, etc. Non, on a eu des exemples. L'exemple de Nil.
Oui. Il y a eu New Energy Algeria.
Absolument. Il y a eu trois.
Filiale sur la traque.
Trois groupes qui se sont mis à produire de l'électricité. C'est vrai que c'est du solaire thermique, hybridation en base, etc.
Mais il fallait commencer.
Mais ça fait très longtemps. On venait de commencer. C'était une expérience. Il y avait deux entreprises publiques.
Sur la traite en gaz.
Et il y avait un groupe privé aussi.
Oui.
Maintenant, on a joué sur des pourcentages. C'était favorable à l'époque. Tester, voir comment, est-ce que ça va réussir. Mais à part ça...
On n'a pas capitalisé cette expérience, vous voulez dire.
On peut y aller. On peut y aller comme ça. Parce que ça, dès que un autre acteur rentre en dehors de celui qui puise du trésor public, donc il s'autofinance, il est là à investir. Ils veulent investir. Il suffit de dire voilà comment. Les motiver, les attirer par le bénéfice, le gain, ce qui est normal. Ouais.
C'est une activité commerciale.
Ensuite, régulée. Les banques sont là.
Oui.
Les banques sont là. Si vous vous souvenez, il y a eu un petit boom là d'attente les années passées quand on attendait la tarification, le tarif de rachat, le tarif d'achat, etc.
Il a été publié encore une fois sur le journal officiel il y a 15 ans.
Rappelez-vous combien de sociétés nationales et étrangères, régionales qui étaient là à attendre pour investir. Il y avait des fonds, il y avait ceux qui avaient leur propre argent, y compris...
Ils ont même retiré le cahier des charges.
Y compris des entreprises algériennes étatiques et privées ont investi dans le solaire, dans la production déjà des panneaux. C'est vrai, c'était timide, c'était pas de la production à 100%, etc. Mais c'est pour dire, dès que vous dites... La porte est ouverte, allez-y. Mais il y a ceux qui ont de l'argent, ils vont investir. Et tous ces investissements, au lieu qu'ils sortent du trésor public, ils seront financés autrement. Et l'État, justement, va bénéficier pour faire autre chose. Continuer sa, la transition énergétique. Vous parlez de l'efficacité énergétique du bâtiment, de ceci, etc. Il y a tellement beaucoup de choses à faire.
Il y a tellement beaucoup de choses à faire. Il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, il y a un commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique au sein des services du Premier ministre.
Je veux dire, la décentralisation est nécessaire.
Oui, la décentralisation est nécessaire. D'accord. Qui doit faire quoi? Qui doit réguler? Qui doit conseiller le trésor public pour dire, monsieur le ministre de l'Habitat, il faut retoquer votre programme, il est très énergivore, dans une stratégie mondiale qui demande beaucoup d'énergie, vu que 98% de nos recettes viennent du pétrole et du gaz, il faut revoir votre copie, injecter un peu plus d'efficacité. Qui peut arbitrer entre les gros consommateurs d'énergie en Algérie? C'est vous-même ou c'est le Haut Conseil de l'énergie?
Je pense qu'aujourd'hui, c'est une affaire de tous avant tout. C'est tout le monde qui est concerné par cette problématique.
À la radio, on en parle. Hein. Maintenant, il faut que les autres sphères de décision puissent décider.
Oui, et d'ailleurs, tous les secteurs sont touchés par cette augmentation de la consommation interne de l'énergie. Et donc, en matière de conseil, je pense que chaque secteur traite toutes ces problématiques. Et les secteurs doivent s'impliquer davantage dans cette transition énergétique. On a cité le transport.
Dans une synergie.
Est-ce qu'ils doivent s'impliquer parce qu'ils ont une feuille de route qui est établie par le gouvernement ou par une autorité de régulation de l'énergie? Ou c'est du volontarisme?
C'est pas du volontarisme. Il faut souligner, peut-être qu'on a oublié de le dire, qu'actuellement, il y a un modèle énergétique qui est en train d'être élaboré par le ministère de l'énergie. Mais
et des énergies renouvelables?
Le ministère des hydrocarbures, je crois, actuellement. D'accord. Mais je sais pas comment les choses sont en train de s'organiser, où tous les secteurs participent et contribue dans l'élaboration de ce modèle énergétique, bien évidemment, chaque secteur avec ses propres données, ses propres réalités.
On va terminer avec ça. Est-ce que c'est au ministère des hydrocarbures de donner l'intrant, la matière première, au ministère de l'énergie et des énergies renouvelables, ou alors le ministère de l'énergie et des énergies renouvelables va finir un jour par se développer, par être autonome en matière de production et de distribution?
Je pense qu'ils doivent travailler en synergie. Auparavant, on avait le ministère de l'énergie et des mines. Aujourd'hui,
on a trois ministères.
Pour donner peut-être plus d'efficacité au travail gouvernemental, je pense qu'ils doivent travailler ensemble et en complémentarité, comme ils l'ont fait ils l'ont toujours fait.
Et le réalisateur avec qui on avait fait une excellente émission à partir de Tafilet, on va pouvoir peut-être revenir à Tafilet et dire, en 30 secondes, oui.
Moi, j'ai envie de dire une seule chose.
Allez-y.
Je pense que l'État a assez pris en charge tout ça. Il faut libérer un peu.
Les initiatives?
Faire participer le maximum de aller vers une décentralisation, faire participer le maximum d'acteurs.
Merci.
En comprenant.
Merci, Mahdir Khelfi, solutions énergétiques.
Il y a tellement beaucoup de choses à faire en dehors du pays. Comme investissement, comme argent à apporter en Afrique, etc., que l'État, j'aurais aimé que cet argent aille à d'autres ailleurs. Investissements ailleurs.
Et merci à Rabah Salami, directeur hydrogène et énergie alternative au commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. La prochaine émission peut-être, du côté de Qsar Tafilet avec notre réalisateur Abdelrani Boudriès. Pourquoi Qsar Tafilet? Parce qu'il y a une dizaine d'années, l'Algérie a obtenu le premier prix mondial en terme de site économe en matière d'énergie. Il y a eu un seul Qsar et puis c'est tout. Merci. Quant à nous, on se retrouvera mercredi prochain, même heure, même station.